Chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que chacun se porte bien dans cette période si particulière et si déstabilisante que nous traversons actuellement. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions dans la ligne proposée par un verset du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14. Je lis premièrement dans la Bible dite à la colombe. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Je lis le même verset dans la nouvelle version en français courant. Lorsque tout va bien, sois heureux. Lorsque tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon qu'on ne sache jamais ce qui va arriver. Lorsque tout va mal, réfléchis. C'est cette partie du verset qui a retenu mon attention. Nous ne vivons pas actuellement des temps heureux, c'est le moins que l'on puisse dire, même si nous ne sommes pas personnellement aussi durement touchés que le sont certains et que le seront d'autres dans les jours et les semaines qui viennent. Ceci dit, nous conviendrons tous pour dire que nous vivons néanmoins des temps difficiles, des temps de malheur, dans une communion planétaire sans précédent. Oui, il y a des jours heureux, et l'Ecclésiaste nous invite à en jouir quand ils sont présents. Mais il y a aussi des jours de malheur, de détresse, pendant lesquels ce même Ecclésiaste nous invite à réfléchir. Oui, le malheur est propice à la réflexion, mais encore faut-il le vouloir. Il est possible aussi de s'endurcir dans le malheur. Il est possible même de fuir, de le fuir, ou de l'ignorer, ou encore de chercher et trouver toutes sortes de moyens pour s'évader dans le malheur. L'Ecclésiaste, lui, nous invite à y faire face, à ne pas plonger notre tête dans le sable. Il nous invite à réfléchir. Lorsque tout va mal, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. C'est ce que je vous propose de faire au travers de cette méditation. Et la première réflexion que je voudrais vous partager concerne notre condition humaine. J'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il y a peu de choses originales dans ce que je vais dire. Mais l'originalité n'est pas le but recherché. Il est même fort possible que beaucoup d'entre vous ayez eu des réflexions similaires. Je referme la parenthèse. La première réflexion concerne donc notre condition humaine, un point que je diviserai en trois. Et je commence par la fragilité, notre fragilité. La crise que nous traversons met devant chacun de nous avec force notre fragilité. Il est fort possible que nous en étions déjà pleinement convaincus. Mais si ce n'était pas le cas, si nous vivions dans l'illusion d'être forts, alors le coronavirus a sérieusement remis les pendules à l'heure et nous a remis les pieds sur terre. Beaucoup traversent cette vie en pensant être forts et maîtres de leur destin. Ils vivent dans cette illusion. Et beaucoup de choses dans notre monde moderne les confortent dans leurs pensées. Mais en fait, nous sommes bien peu de choses. En fait, nous sommes fragiles, très fragiles. Un petit rien microscopique suffit à nous faire mettre un genou à terre, et parfois même à nous faire mourir. Un petit rien microscopique invisible, et voilà notre monde dans un état de panique sans précédent. Sans faire de catastrophisme, qu'adviendrait-il de la race humaine si un virus plus virulent et plus contagieux faisait son apparition? La situation que nous traversons a rendu cette perspective malheureusement très crédible. Perspective qui nous rappelle encore plus notre fragilité. Parler de notre fragilité nous conduit irrémédiablement à parler de notre mortalité. C'est le deuxième aspect de notre condition humaine que je voulais souligner. Nous sommes fragiles, mais nous sommes surtout mortels. La Bible souligne à de nombreuses reprises cette réalité, comparant la vie humaine à un souffle, un rien, une herbe qui sèche. Nous sommes mortels, et c'est la condition humaine depuis la chute, c'est-à-dire depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Depuis lors, nous vivons dans un monde qui est marqué par la mort comme le salaire ou la conséquence du péché. Nous sommes mortels. Si nous pouvons vivre dans l'illusion de notre force, nous pouvons aussi vivre dans l'illusion de notre immortalité, vivre comme si nous n'allions jamais mourir, vivre sans jamais nous y préparer. Ainsi, très facilement, nous vivons ou nous pouvons vivre comme si la réalité de la mort n'était qu'une vérité théorique, comme si nous n'étions finalement pas concernés. Mais la crise que nous traversons nous rappelle cependant que la mort est réelle, bien réelle, et que nous sommes tous concernés par elle. Plus moyen d'échapper à cette réalité, pour peu que j'allume ou que j'ouvre la radio, la télé, les journaux, les réseaux sociaux ou Internet. Les compteurs du décompte macabre s'affolent et nous sommes comme hypnotisés devant ces chiffres qui augmentent inexorablement, jour après jour, depuis plusieurs semaines, et certainement pour beaucoup d'autres encore. Oui, nous sommes mortels. Cette réalité est bien réelle et c'est la nôtre. Qui pourrait en douter? Qui pourrait ne pas y penser en ce moment? La troisième chose que je voudrais souligner dans cette première réflexion sur notre condition humaine, c'est notre égalité. Notre société, notre monde et nous, parfois, marquons bien des différences entre les humains. Il y a les riches et les pauvres, les blancs et les noirs, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les intelligents et les idiots, les chrétiens et les non-chrétiens, les forts et les faibles, les bons et les méchants, et j'en passe. Mais le coronavirus ne connaît rien de ces différences. Il y a bien sûr des différences de réaction au virus selon les systèmes immunitaires des uns et des autres, mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Le Covid-19 frappe indistinctement, quelle que soit la couleur de la peau, la langue, la culture, le niveau social ou quelque autre différence qu'il peut y avoir. Pendant quelques jours, quelques semaines, nous avons vécu dans l'illusion que ce virus était chinois et qu'il allait le rester. Mais nous nous sommes trompés. Ce virus ne connaît rien des barrières, des cloisonnements et des frontières humaines. Face au virus, nous sommes tous égaux dans le sens que je viens d'évoquer. Après cette brève réflexion sur la condition humaine, j'aimerais deuxièmement dire un mot sur notre orgueil. J'entends par là l'orgueil de croire, de penser que nous sommes les maîtres de notre destin. L'orgueil, la folie même, de penser que notre vie est entre nos mains. Dans notre société occidentale en particulier, beaucoup le pensaient jusqu'à ce que le Covid-19 s'invite dans l'équation de notre vie. Il a suffi d'un grain de sable infinitésimal pour gripper la machine, pour nous rappeler que nous ne maîtrisons finalement pas grand-chose. Notre hyper-technologie a amené beaucoup à croire que nous avions toutes les cartes en main. Nous aimions peut-être le penser. Nous étions peut-être rassurés de le penser. Mais ce n'est pas la vérité. Alors bien sûr, nous contrôlons beaucoup de choses dans nos vies de tous les jours. Nous pouvons même contrôler de plus en plus de choses à distance, comme le chauffage ou la sécurité de nos maisons avec nos smartphones ou encore nos comptes en banque. Ces différents contrôles peuvent alors contribuer à nous donner l'illusion que nous avons les manettes de notre vie bien en main. Mais le coronavirus a fait voler en éclats cette bulle illusoire dans laquelle il est facile de se sentir en sécurité. Et le monde se réveille et prend conscience que nous contrôlons bien peu de choses en réalité. Même les plus arrogants sont obligés de faire machine arrière. En fait, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est au contrôle. Ma vie est entre ses mains. C'est la perspective que nous donne la Bible, la parole de Dieu. C'est Dieu qui a déterminé le nombre de nos jours, comme l'écrit le psalmiste au psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Oui, notre vie est dans les mains de Dieu, que nous en soyons conscients ou pas, que nous l'acceptions ou pas. C'est vrai aussi des événements qui se passent dans notre monde. Dieu est souverain sur les événements du monde. Ici se pose bien évidemment la question du lien entre la souveraineté de Dieu et la présence du mal dans le monde. Si Dieu est souverain, pourquoi le mal et la souffrance? Pourquoi les permet-il? C'est un vaste sujet que je ne peux pas adresser maintenant, mais que je mets de côté pour une autre fois. Notons simplement qu'il y a des choses que Dieu tolère pour un temps, mais auxquelles il mettra un terme lors du retour de Jésus. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de souligner la souveraineté de Dieu sur la vie de chaque homme et de chaque femme vivant sur cette terre, la souveraineté de Dieu sur les événements que nous vivons. Et parce que Dieu est souverain, nous devons apprendre à dire ou à redire « Dieu voulant » ou « si Dieu le veut ». Voici un extrait d'un texte que j'ai lu cette semaine. Il est de Jérémie Cavin, qui est pasteur de l'Église réformée baptiste de Lausanne. J'ouvre les guillemets. Réfléchissons à notre orgueil. Notre manière de vivre en Occident ne manifeste-t-elle pas souvent notre orgueil de penser tout contrôler? Jusqu'il y a peu de temps, manger à notre faim allait de soi, prendre les transports publics allait de soi, se rendre au culte allait de soi, amener nos enfants à l'école allait de soi, tout faire pour rester en bonne santé allait de soi. Et aujourd'hui, plus rien ne semble aller de soi. Nous prenons conscience de tous les privilèges qui étaient les nôtres, maintenant qu'ils ne sont plus des acquis. Et devant les incertitudes que nous réserve l'avenir, nos réactions peuvent aller du dépit à la peur, en passant par la colère et l'incompréhension. Parce que nous sommes tristes et impuissants. En même temps, ce sentiment d'impuissance et de perte de contrôle constitue une très belle occasion d'apprendre à redire « Dieu voulant ». Dieu voulant, ce ne sont plus juste deux mots, mais une réalité. Tout dépend de la volonté de Dieu, y compris ce qui nous semblait acquis. Même les mesures gouvernementales pour freiner et contrer la propagation de l'épidémie fonctionneront, Dieu voulant. Allons-nous prier humblement Dieu autant que nous allons réfléchir aux moyens d'éviter la contamination? Allons-nous compter sur la grâce divine autant que sur nos mesures humaines drastiques? Je ferme les guillemets. Oui, nous devons apprendre à prier, à dire ou à redire Dieu voulant, ou si Dieu le veut, non pas comme une formule magique ou une sorte d'imprécation, mais comme le reflet de notre compréhension que toutes choses sont effectivement dans la main de Dieu. Cela demande de l'humilité que Dieu peut nous donner si nous la lui demandons. Rejetons l'orgueil autosuffisant qui si facilement remplit notre cœur et plions le genou devant le Dieu souverain qui fera toutes choses belles en son temps. C'est notre espérance, car il le veut, car il l'a promis, car telle est sa volonté. Nous arrivons à la troisième et dernière réflexion qui découle de tout ce que nous venons de dire et qui concerne notre besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Si Dieu tient notre vie entre ses mains, Ne serions-nous pas insensés de ne pas nous en remettre à lui? Si Dieu tient la destinée de notre monde entre ses mains, ne serions-nous pas insensés d'ignorer ce qu'il nous dit dans sa parole? C'est ici que nous nous souvenons que Dieu nous a donné une espérance qu'il offre à notre foi. Parler d'espérance au jour du malheur pourrait passer pour certains pour une fuite devant les circonstances difficiles, une sorte d'opium qui atténuerait les souffrances des chrétiens. Il ne s'agit bien évidemment pas de cela, mais de la mise en perspective de notre vie et de notre monde à la lumière de ce que Dieu dit dans sa parole dans la Bible. C'est ainsi que nous devons premièrement nous rappeler que le péché est un virus bien plus mortel que le Covid-19, car la mort qu'il entraîne est une mort éternelle, une mort de notre âme. Si le Covid-19 peut tuer le corps dans cette vie, le péché, lui, nous tue spirituellement en nous séparant de Dieu pour l'éternité. C'est pour nous délivrer de cette malédiction, pour nous offrir une alternative, pour nous offrir la réconciliation avec Dieu son Père, que Jésus est venu sur terre, qu'il a pris notre condamnation, celle que nous méritions pour notre péché, c'est-à-dire la mort, afin de nous offrir la vie éternelle, comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Voilà donc notre premier besoin de Dieu, celui de notre salut, celui de notre réconciliation avec le Père par le Fils, celui du pardon de nos péchés. C'est le besoin de la grâce de Dieu qui nous est offerte gratuitement en Jésus et que nous pouvons recevoir par la foi, comme le dit le verset d'Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, nous avons besoin de Dieu pour être sauvés. Mais ce n'est pas notre seul besoin de Dieu. Nous avons aussi besoin de lui pour vivre ici-bas, jour après jour, dans le salut qu'il nous offre. Ne serions-nous pas insensés, après avoir accepté le salut de Dieu, de vivre en comptant sur nos seules ressources et non sur celles que Dieu nous offre? C'est vrai pour tous les jours, même les jours de joie. Mais c'est vrai d'une manière toute particulière au jour du malheur, au jour de la détresse. Quelle grâce et quelle force de pouvoir placer notre confiance en Dieu, quelles que soient nos circonstances. Quelle grâce et quelle force aussi de pouvoir recevoir de Dieu la paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix que Dieu donne à celui qui se confie en lui, comme le souligne l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ne vous inquiétez de rien, dit-il, mais en toute chose, en toute circonstance, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Quelle grâce et quelle force ensuite de pouvoir recevoir de lui la sagesse qu'il donne à quiconque la lui demande sans douter, comme le dit l'apôtre Jacques au début de son épître. Finalement, pour faire court, quelle grâce et quelle force de pouvoir trouver en Dieu notre refuge, notre abri, notre secours. Les psalmistes ont dit ces choses de tant de manières. Oui, nous avons besoin de Dieu pour notre salut, mais aussi pour vivre jour après jour selon lui, même et surtout au jour du malheur, avec tout ce qu'il veut nous donner par son esprit et par sa parole. C'est ici que peut se poser la question de nos attentes. Dire que nous avons besoin de Dieu pour vivre jour après jour laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, à beaucoup de possibles. Que pouvons-nous demander à Dieu ? Que pouvons-nous légitimement attendre de lui ? La réponse générale, c'est que nous pouvons attendre ce qu'il a promis. Mais c'est justement là que les choses se compliquent parfois, car nous ne comprenons pas tous les choses de la même manière, car nous ne comprenons pas tous certaines promesses de Dieu de la même manière. C'est vrai en particulier pour certaines promesses de l'Ancien Testament que Dieu a fait à la nation d'Israël, souvent dans des contextes de guerre physique, et que nous transposons parfois sans autre à nous, à l'Église, à notre réalité spirituelle bien différente, si différente, puisqu'elle vient après la venue de Jésus, après la croix et la résurrection. Transposer ainsi certaines promesses de l'Ancien Testament à notre situation aujourd'hui sans discernement, c'est s'égarer et s'exposer inutilement à la déception et à l'incompréhension, parfois même au doute et à la révolte. Nous attendons de recevoir de Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Chers amis, Dieu n'a jamais promis de nous épargner les épreuves. Il n'a jamais promis que nous ne tomberons pas malades, même du Covid-19, et encore moins que nous ne mourrons pas. Par contre, il a promis de nous accompagner de sa présence tous les jours, les bons comme les moins bons, jusqu'à la fin du monde. Il a promis à celui qui se confie en lui sa paix qui surpasse toute intelligence. Il a promis à celui qui pleure de sécher ses larmes. Il a promis à celui qui met sa foi en lui de lui préparer une place pour le prendre avec lui. Il a promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, et où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, ni péché, ni coronavirus, car les premières choses auront disparu. Voilà notre espérance. Une espérance qui nous rappelle que notre monde est provisoire. Une espérance qui nous rappelle que tout passera ici-bas. Une espérance qui nous invite à lever les yeux vers celui qui tient toutes choses entre ses mains. Notre espérance ultime et notre plus grand besoin n'est pas d'être protégé du coronavirus. Il y aura encore d'autres maladies sur notre route. Notre espérance ultime et notre plus grand besoin n'est pas de ne pas mourir. Notre heure finira bien par arriver un jour. Notre espérance ultime et notre plus grand besoin est dans le Seigneur, dans son salut, dans ses ressources et dans ses promesses. Au jour du malheur, réfléchis. C'est ce que nous avons essayé de faire. Certes, nous n'avons pas tout dit, mais nous en avons dit suffisamment pour que nous puissions y réfléchir sérieusement. Que le Seigneur se serve de ces réflexions pour notre bien, pour nous attirer à lui, pour consolider notre foi dans ces temps troublés. Qu'il nous garde dans sa paix et dans la conviction qu'il est souverain et que rien, rien, pas même le Covid-19, n'échappe à son contrôle et ne pourra nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ.